Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marc Doucet. Je vais commenter le sujet, les annales de l'UE9 du DCG de la session 2020. On va commencer par les généralités, puis on rentrera un petit peu plus dans les détails. Cela dit, vous avez évidemment la version écrite de la correction que j'ai pu faire. Dans cette session, il y avait quatre dossiers. Un premier dossier, droit comptable et environnement numérique, 1,5 points. Un dossier 2 d'opérations courantes, 7,5 points. Opération 3, opérations d'investissement et de financement, 2,5 points. Et un quatrième dossier sur les opérations d'inventaire, 8,5 points. Ce que l'on peut dire d'un point de vue général, c'est que là, cette année, le sujet couvrait l'ensemble du nouveau référentiel du DCG, et y compris, bien sûr, ce qui a été rajouté d'une façon spécifique dans le nouveau référentiel, à savoir le droit comptable et l'environnement numérique. Et donc, évidemment, les auteurs du sujet n'ont pas manqué, évidemment, comme c'était la première fois, de l'intégrer dans le sujet. Cela dit, vous allez voir quand on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour ceux qui ne l'auraient pas passé, qu'il était possible de répondre à cette question même sans avoir étudié pendant des heures et des jours le cours sur cette partie-là, parce que c'était assez logique. Maintenant, ce qu'on peut dire également, je répète, ça couvrait l'ensemble du programme. Mais deux, il y avait par rapport aux autres années, me semble-t-il, beaucoup moins d'écritures à passer et plus de questions, alors soit théoriques, soit de réflexion, mais dans l'ensemble, ça restait quand même accessible. Le seul petit bémol que l'on peut apporter, mais bon, ça non plus, c'est pas spécifique à cette session, c'est que évidemment, pour tout traiter correctement et avoir 20 sur 20 en 3 heures, c'était pas évident. Mais le niveau de difficulté me semble tout à fait correct, acceptable dans la moyenne. Avec toutefois, il fallait quand même avoir bien travaillé parce que, notamment au niveau des écritures, il y avait quand même des petites spécificités dont il fallait se souvenir. Je vais pas évidemment reprendre chaque écriture une par une parce que ça serait un petit peu long et rébarbatif, mais on va quand même rentrer un petit peu plus dans les détails et on va regarder le premier dossier qui s'intitulait droit comptable et environnement numérique, qui valait 1,5 point. Et en fait, les trois questions, la première, vérifier la conformité des pratiques de l'entreprise en matière d'établissement et de délai de conservation des factures électroniques. Deuxième question, identifier l'intérêt de cette dématérialisation des factures du point de vue de l'enregistrement comptable au sein du cabinet Prochifra. Et troisième question, proposer à Smartec une modalité de sauvegarde de ces factures électronique. Eh bien, la réponse à ces questions, vous l'aviez dans le cours, hein, ça fait l'objet d'ailleurs du dernier chapitre de votre classeur, normalement à peu près les trois quatre derniers chapitres qui portaient là-dessus et qui par Fabien Resca à Contalia. Vous aviez la réponse à cela, mais très honnêtement, l'intérêt, par exemple, de la dématérialisation des factures d'un point de vue de l'enregistrement, bon, ça, même quelqu'un qui n'aurait pas travaillé le cours absolument dans tous les détails aurait pu répondre à ça. Je veux dire, ça permet de réduire les coûts d'impression, de transmission, rapidité. Enfin bon, vous voyez, ça reste que du logique. L'histoire de la conformité de l'entreprise en matière d'établissement et des délais de conservation des factures électroniques. Bon, et ça, là aussi, c'est quelque chose que vous êtes censé savoir et que vous aviez dans le cours. Et de la même façon, une modalité de sauvegarde de ces factures électroniques, il y en a plusieurs, mais vous aviez évidemment la réponse dans le cours. Donc, disons que sur les 1,5 points, c'était, me semble-t-il, assez facile d'en avoir plus de la moitié. Autrement dit, avoir un point sur 1,5 assez rapidement, c'était assez facile. Deuxième dossier, opération courante. Donc là, il y avait deux missions, on va dire. Une première mission, c'était qui comptait des écritures courantes, des factures, enfin, etc., etc. Et une deuxième mission qui portait plus sur la TVA. Donc on est vraiment dans les opérations courantes. Là, les deux premières questions de ce dossier était, je crois, assez facile, surtout, alors pour le coup, la première, puisque la première, c'était différencier parmi les opérations écrites dans le document 3, les pièces justificatives donnant lieu à un enregistrement comptable des autres documents commerciaux. Bon, ben, dans ce document, il s'agissait de facture initiale, facture d'avoir, avis de débit, avis de crédit, de devis et de bon de livraison. Ben, évidemment, en DCG, vous êtes censé savoir que les devis et les bons de livraison ne font pas l'objet et ne sont pas à enregistrer comptablement. Il faut qu'il y ait des pièces justificatives, d'accord, mais ce ne sont pas des pièces que l'on enregistre. Bon, ça, vous devez le savoir très honnêtement. Vous voyez, ça, c'était une question auquel il fallait répondre très rapidement pour prendre les points. Deuxième question, déterminer les différents comptes de charges dans lesquels il est possible d'inscrire les frais de port mentionnés dans la facture, etc., etc. Bon, ben là, vous aviez dans mon cours, dans la partie de cours que j'ai écrit là-dessus, sur l'enregistrement des factures d'achat et de vente concernant justement les frais de port. Et là, vous aviez la première possibilité, donc c'est ce qu'on appelle enregistrement des charges par nature, enregistrer donc les frais de port en 624.1 frais de transport sur achat, ou bien les rajouter au 607 achat de marchandises, ou alors créer un compte spécifique 608.7 frais accessoires d'achat de marchandises, notamment lorsque l'on peut affecter clairement les frais de port à une catégorie de marchandises, donc, par exemple s'il n'y avait qu'une seule catégorie de marchandises. D'accord ? Alors ensuite, il y avait évaluer et comptabiliser les opérations figurant dans le document 3. Et dans ce document, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y avait donc alors ce qu'il ne fallait pas enregistrer, devis, bons de livraison, et ensuite des factures classiques, bien entendu. Donc là, je ne vais pas les commenter une par une, encore une fois, puisque vous avez la correction, la possibilité de télécharger la correction écrite, donc ce sera un petit peu rébarbatif à l'oral. Simplement, deux, trois petites choses quand même. Pensez qu'il faut toujours, par principe de prudence, j'allais dire, le jour de l'examen, lorsqu'il n'y a pas d'écriture à passer, alors qu'on vous dit le 4 mars, par exemple, émission du devis, etc., préférable, on ne sait jamais du point de vue de la correction, de faire ce que je vous propose, c'est-à-dire écrire comme si c'était une écriture normale, 4 mars 2019, et bien écrire en français, pas d'enregistrement comptable pour un devis. Comme ça, le correcteur sait que si vous n'avez pas passé d'écriture, ce n'est pas un oubli ou parce que vous ne savez pas, c'est pas vous ne passez pas d'écriture et vous le justifiez. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pour pas risquer de perdre des points là-dessus. Alors ensuite, il y avait toute une série de factures d'origine ou factures d'avoir à enregistrer. Bon, évidemment, il y avait quand même quelques petites difficultés. Par exemple, dans la facture du 11 que l'entreprise avait envoyé, bien entendu, il s'agissait déjà de prestations de services. L'entreprise n'a pas opté pour les débits. Il y avait des avancées à compte. Ben, vous voyez, il y avait quand même non pas des pièges, mais en tout cas, il fallait faire attention et pas par exemple utiliser un compte de 564 566 TVA 571 TVA collecté, alors que il fallait utiliser un compte d'attente 44 58 puisque le client n'avait pas encore payé. Vous voyez, c'est ce genre de choses auxquelles il fallait faire attention. Le 15 mars, alors, un achat de matières premières, vous allez me dire, c'est très simple. Ah oui, mais quand même, c'était un achat de matières premières venant en une importation, donc hors communauté européenne, qui était en yuan avec un fournisseur chinois. Donc, il fallait convertir, bien entendu, pour traduire en euros. Donc, voilà, bien sûr, pas de TVA, bien entendu. Après, le 19, c'était la réception de la facture du transitaire en douane relative à l'achat justement des composants électroniques achetés à la Chine. Donc là, bon, là classique, hein, des droits de douane, rémunération d'intermédiaire, on nous donnait la TVA, enfin bon, pas de souci particulier pour cette écriture. Le 20 mars, ben justement, pas d'écriture parce que c'était un bon de livraison, donc écrire, pas d'écriture parce que c'était un bon de livraison. Ensuite, le 22 mars, règlement par virement aux fournisseurs chinois. Donc là, bien entendu, a priori, c'est pas difficile. On diminue, eh bien, entendu, la dette fournisseur, on crédite la banque. Mais il fallait pas oublier que, évidemment, les taux de change avaient changé entre la date à laquelle on avait enregistré la facture d'origine et la date où on a payé. Ça s'est traduit, cette variation de taux de change, dans ce cas particulier, par une perte de change. Ensuite, il y avait le 25 mars, donc réception de la facture du fournisseur bourgeois. Donc là, il y avait des emballages, d'accord. Alors c'était simplifié, comme c'est très souvent le cas, à la fois dans la réalité et dans le cadre des examens, puisque l'énoncé précisait que la consignation d'emballage n'était pas soumise à TVA, donc ça simplifie par l'écriture d'enregistrement, donc pas de souci majeur à mon avis à ce sujet. Ensuite, le 27 mars, avis de crédit de la facture 306 relative à la facture du 11 mars, c'est-à-dire la première facture dont on a parlé. Avec le client avancé à compte, la TVA condamnante, la vente de la prestation de service de l'entreprise. Alors là, évidemment, encore une fois, ça paraît pas difficile comme ça. Attention, il fallait bien penser que là, d'un seul coup, il y a paiement. C'était une vente de prestation de service. Comme il y a paiement, la TVA collectée, de la TVA collectée apparaît, bien entendu. Et donc, il fallait diminuer le 44,58 TVA compte d'attente et créditer le compte 44,560. 71 TVA collectée. Ensuite, le 30 mars, là aussi un classique, c'est du retour fournisseur, retour de d'emballage, de palettes qui étaient consignées, mais le fournisseur nous les reprend moitié moins cher. Donc, il y avait donc un mali sur emballage et faire apparaître à ce moment-là, bien entendu, logiquement, de la TVA, bien entendu. D'accord ? Alors, ça, c'était la première partie des opérations courantes. Deuxième partie qui portait sur la TVA. Alors, première question, expliquer la procédure de réalisation de la déclaration de TVA par EDI. Bon, alors soyons clairs, hein, je pense à ceux notamment qui peuvent travailler en cabinet et qui ont l'habitude de ça, de décrire toute la procédure avec les cellules qu'il y a à remplir via Internet. Enfin, il s'agit d'être assez succinct, autrement dit que maintenant l'entreprise peut l'expert comptable faire la déclaration automatique de TVA par EDI, l'échange de données informatisé. C'est les données comptables donc sont recherchées par EDI et hop, l'envoi directement, comme ça c'est directement à l'administration fiscale et du coup ça va très vite et ça simplifie le travail. Mais on vous demandait pas, je pense très honnêtement, beaucoup plus de détails que cela. Après, justifier le montant renseigné en ligne 27 de la déclaration de TVA. Bon, mais là, c'était franchement pas très difficile. Il se trouvait que là, il apparaissait un crédit de TVA, donc ça se comprenait. Ceci dit, dans le cours, vous aviez quand même ce genre de choses qui apparaissaient. On vous demandait pas de la remplir, hein, cette déclaration de TVA, mais juste de l'interpréter, de comprendre comment on trouvait la ligne 27, c'est-à-dire le crédit de TVA. Bon, ben on le voit, hein, c'était total de la TVA 1840 moins 1950, la TVA déductible, et donc il y avait un crédit de TVA, sachant que il existait à la fin du mois de janvier sur la ligne 22, on voyait apparaître un report du crédit de TVA. Cela dit, même si on ne voyait pas cette ligne 22 où on la faisait pas remonter, ça n'empêchait qu'on pouvait retrouver quand même les 110 euros de crédit TVA à reporter. Troisième question de cette deuxième mission, comptabiliser la déclaration de TVA. Alors là, bon, là, c'est un grand classique, il n'y a pas de doute. Par contre, là, il fallait voir, là, en revanche, bien voir qu'il y avait un crédit TVA du mois de janvier de 220 euros, reporter. Alors moi, à titre pédagogique, dans la correction, je vous ai bien mis deux lignes différentes. Une ligne qu'on débite concernant le crédit de TVA qui apparaît à la fin du mois de janvier, 210 euros, et une ligne avec le même compte que j'ai crédité, 44,567, crédit de TVA du mois de janvier, pour évidemment annuler le crédit de TVA qui apparaissait fin janvier. Il est évident que on aurait pu utiliser une seule écriture à la place de une fois débité, une fois crédité, le 44-567. C'était correct aussi, mais là, à titre pédagogique, j'ai bien séparé les deux pour que tout le monde comprenne bien le principe. D'accord ? Alors, ensuite, troisième dossier, opération d'investissement et de financement. Première question, présenter un avantage et un inconvénient du financement par subvention obtenu par Smartec. Voilà, pareil, il y avait un document qui était attaché hein, à cette question, mais là, quelqu'un, j'allais dire n'importe qui, aurait pu répondre, quoi. Avantage, ben, si c'est une subvention, c'est que dans le cas précis, elle n'est pas remboursable, donc évidemment, ce qui n'est pas le cas lorsque vous empruntez pour financer une IMO. Et parmi les inconvénients, surtout, alors là c'était spécifique, j'allais dire dans le document que l'on nous donnait en annexe, c'est que la subvention était conditionnée à l'achat d'un véhicule électrique spécifique. C'était pas pour acheter n'importe quoi ni n'importe quel véhicule. Donc là, on peut considérer que c'est un inconvénient. Si l'entreprise voulait acheter autre chose à l'origine qu'un véhicule électrique, ben elle n'aurait pas bénéficié de la subvention. Donc on peut considérer que c'est un inconvénient. Vous voyez, ça reste quand même du bon sens. Ensuite, citer deux autres moyens de règlement qu'aurait pu utiliser Smartec pour régler le véhicule. Alors bon, il y en a plusieurs. Moi, je vous ai parlé du crédit documentaire et de la remise documentaire. Bon, alors ça, peut-être que tout le monde n'a pas pensé à cela. Il y avait aussi le CEPA qui permettait de payer. Enfin bon, tout dépendait si c'était notamment un fournisseur à l'étranger. Enfin bon, il y avait plusieurs réponses possibles. Ensuite, évaluer et comptabiliser toutes les opérations en cours d'exercice liées à la subvention et à l'acquisition du véhicule. Bon là, franchement, grand classique et pas difficile. Bon, la première question, il fallait présenter la facture en annexe. Hein, c'était plus facile pour passer l'écriture, notamment pour la valeur d'entrée, la TVA déductible, la TVA du intracommunautaire, le fait que ce soit fournisseur d'IMO. Mais enfin, franchement, c'est pas une écriture très difficile. Ça, c'était pour le 1er avril. Le 3 avril, c'était l'avis de débit, le montant qui était avec les services bancaires. On reçoit la subvention le 24, donc il va d'abord constater l'octroi de la subvention et ensuite le 30, donc en gros une semaine plus tard, l'avis de crédit de la banque qui atteste que la subvention a bien été versée sur le compte de l'entreprise. Ça, franchement, il y a eu des sessions où c'était beaucoup plus difficile que ça quand il y avait des problèmes de subvention, bien entendu, parce que derrière, il y aurait pu y avoir que l'entreprise, alors c'est un véhicule, mais ça aurait pu être, on a eu vu des cas où ça permettait d'acheter une machine, donc qui était amortissable, par exemple, en dégressif, donc il fallait des amortissements dérogatoires, avec une reprise avec les comptes 767. Vous voyez, le dossier aurait pu être beaucoup plus complexe. Là, très honnêtement, ça me paraît très humain et très pas trop compliqué, franchement. Après, suite des opérations d'inventaire, alors c'est là où ça valait le plus de points, 8,5 points. Alors là aussi, il y avait trois missions même, pardon. Et la première mission, c'était l'équipement. Donc, je suis bien l'opération d'investissement et dans les opérations d'inventaire, pardon. Et donc, la première mission, c'était première question, évaluer et comptabiliser les opérations d'inventaire liées à cet équipement. Donc là, il s'agissait d'un achat d'une nacelle sécurisée, etc., etc. Mais ce qu'il fallait comprendre, bien sûr, c'est que notamment il y avait le problème que l'énoncé nous parlait d'une valeur vénale, d'une valeur d'usage, et donc il fallait se souvenir, ça vous l'aviez dans le cours, bien entendu, ne pas mélanger. Et bien connaître ce qu'était la valeur vénale, de ce qu'était la valeur d'usage, de ce qu'était la valeur nette comptable et des conséquences d'un point de vue comptable quand ces valeurs étaient différentes. Donc, la valeur vénale, c'est le prix que l'on peut obtenir, que l'on pourrait obtenir si on vendait à la fin de l'exercice l'immobilisation, d'accord ? Net des coûts de sortie, donc ici, évidemment, sinon c'est trop simple, on nous parlait de frais de sortie de 700 euros, donc la valeur vénale était de 50 000 euros. Quant à la valeur d'usage, alors la valeur d'usage, c'est très compliqué dans la réalité à déterminer, puisqu'il faudrait faire des calculs mathématiques, comme je vous l'explique dans le cours, il faudrait normalement calculer la valeur actuelle des flux futurs de trésorerie engendrés par l'utilisation de l'immobilisation, donc très compliqué, très honnêtement, à définir dans la réalité. Donc du coup, la valeur d'usage, on nous la donne ici, on nous dit qu'elle est égale à 45 000 euros. Par ailleurs, il fallait qu'on se souvienne de comment on appelle la valeur nette comptable. Bon, mais ça, c'est pas ça qui va vous gêner quand même. Valeur d'entrée moins somme des amortissements. Valeur nette comptable, 53 000 euros. Et ensuite, il fallait se souvenir, mais je vous avais fait un schéma dans le cours pour cela. Je vous rappelle qu'il faut d'abord calculer la valeur actuelle de l'IMO, qui est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. Donc ici, ben c'est simple, hein, la valeur vénale 50 000 euros, la valeur actuelle elle est supérieure, donc la valeur vénale 50 000 euros est supérieure à la valeur d'usage qui est de 45 000 euros. Donc la plus élevée des deux, ça s'appelle la valeur actuelle, et la valeur actuelle c'est donc 50 000 euros. Ensuite, cette valeur actuelle est comparée à la valeur nette comptable. Donc, on a fait les calculs auparavant, vous allez voir dans la correction. Donc, on a la valeur actuelle 50 000 euros, la valeur nette comptable 53 000. Donc, la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable. Donc, il faut comptabiliser une dépréciation de 3 000 euros. Donc, il y avait bien deux écritures à passer. Une écriture concernant l'amortissement, bon, ça, aucune difficulté, hein, puisque c'était 60 000 fois 1/5 fois 7/12, aucune difficulté, et la dépréciation à hauteur de 3 000 euros. Donc, on peut pas dire que c'était monstrueux, mais il fallait bien se souvenir de ce cas-là. Ensuite, il y avait énoncé, expliqué les principes comptables liés à ces opérations d'inventaire, notamment donc cette histoire de dépréciation. Hein. Bon, ben là, principe de prudence, principe d'indépendance, ça reste quand même quelque chose d'assez classique hein, comme question. Ensuite, présenter l'extrait du bilan de clôture relatif à ce bien. Bon, ben là, on parle pas de difficulté majeure, hein, le montant brut, amortissement et dépréciation. Donc, il fallait bien rajouter les amortissements et les dépréciations, c'est-à-dire 7 000 d'amortissement, 3 000 de dépréciation, ça fait donc 10 000. Comme la valeur d'entrée, c'est 60 000, le net, c'est 50 000. Comme il n'y a pas d'amortissement dérogatoire ici, donc il n'y a pas au passif de provision réglementée, donc ça simplifie le dossier, d'accord ? Ensuite, il y avait une deuxième mission concernant travaux d'inventaire concernant notamment les des écritures par rapport à un document, c'était le document 11 hein, de mémoire, dans lequel il y avait par exemple des pénalités, alors tout à fait classique, hein, des pénalités, des cessions de titres, etc., etc. Donc là, franchement, pas de difficulté, me semble-t-il, très franchement, là-dessus, un grand classique dont je vais pas m'attarder spécifiquement. Les pénalités de retard, bon, ben, c'est une provision débitée le compte 15-14, provision pour amende et pénalités. Alors là, il fallait les reprendre parce que les pénalités ont été annulées, mais franchement, il n'y avait pas de difficulté, me semble-t-il. Après, il y avait une histoire de client douteux, après une histoire de titres que de cession de titres que le comptable, comme souvent dans les examens, n'avait pas utilisé le compte 775 prix de cession des titres au moment de la cession, mais avait utilisé un compte d'attente de type 47, enfin 471 ici. Donc voilà, pas très compliqué. Ensuite, justifier la nécessité de détermination des achats nets et des ventes nettes à la clôture de l'exercice, puis procéder à la comptabilisation de ces opérations. Alors ça, je sais pas si, alors ça c'était dans le cours aussi, mais je sais pas si tout le monde y a pensé ou tout le monde a eu le temps d'arriver jusque-là. C'est que, en fait, dans, ça fait partie vraiment des toutes dernières opérations d'inventaire, c'est-à-dire que on solde les comptes de RRRO et RRRA, on les solde quand à la fin de l'exercice, parce que ça vient dans le compte de résultat, c'est pas sur des lignes séparées, c'est-à-dire que dans le compte de résultat, sur achats de marchandises et ventes de marchandises, vous avez en quelque sorte, on va dire, les achats nets, c'est-à-dire le solde du 607 moins le montant des 609 des RRRO et le solde des 706, ici prestations de service, moins les RRRA. Donc il faut tout simplement alors c'est les écritures. Donc ça non plus c'était pas très très difficile. Donc ensuite qu'est-ce qu'il y avait, troisième mission, énoncer, justifier la modalité informatique préalable à la clôture clôture des comptes. Bon, ben ça, là aussi, ça fait partie du on va dire un peu du nouveau programme, parce qu'avant on n'en parlait jamais de cela. Donc, je vous ai réécrit l'article 922.3 du PCG précise que le caractère définitif des enregistrements du livre journal et du livre d'inventaire est assuré par les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés par une procédure de validation qui interdit toute modification ou suppression de l'enregistrement. Par ailleurs, l'opération de clôture rend impossible la saisie des écritures dans l'exercice clôturé. Les écritures ultérieures seront obligatoirement saisies sur l'exercice suivant. C'est là, évidemment, la séparation des exercices, si vous voulez. Et ensuite, on nous demandait, donc dernière question, expliquer et justifier le traitement comptable à réaliser concernant cette écriture de régularisation à l'ouverture de l'exercice 2020. Bon, ça, évidemment, et heureusement, vous l'aviez également dans le cours, puisque, rappelez-vous, c'est l'histoire de contrepasser le premier jour de l'inventaire un certain nombre d'écritures, dont contrepasser l'écriture des RRR à obtenir et RRR à accorder si c'était le cas par exemple, d'accord. Donc voilà, tout, j'allais dire entre guillemets, tout simplement. Donc si on fait une petite synthèse, ça couvrait l'ensemble du programme. Il fallait quand même pas perdre de temps parce que c'était quand même assez long. Il y avait assez souvent des petits pièges, rien de monstrueux, mais quelques petits pièges. Donc c'était, je crois, objectivement abordable pour ceux qui avaient travaillé régulièrement, bien entendu. J'espère que ça a été le cas pour la plupart d'entre vous et que vous serez récompensés du travail que vous avez fait pendant toute l'année. Merci, bon courage et à bientôt. Au revoir.